Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titre de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Institut de l'agriculture de Bogor, IPB, et l'Université Gent de la Belgique ont signé le mémorandum d'entente. Le ministre de l'Industrie a invité la France à construire un chantier naval en Indonésie. WWF établit des partenariats avec d'autres entreprises pour gérer les forêts de mangrove. Le Festival mondial des fleurs encourage l'économie. Colonne Progo participe à l'exposition de l'industrie à Hong Kong. Et enfin, la communauté de Laoué fait campagne le tissage typique de l'Indonésie au monde. Voici le journal complet. L'Université de l'agriculture de Bogor, IPB, a signé un mémorandum d'entente avec l'Université Gent de la Belgique, mercredi à Bogor, Java West. Cette signature a été témoignée par la princesse Astrid de la Belgique en marge de la visite de la mission économique de ce pays en Indonésie du 12 au 19 mars. Le mémorandum d'entente entre IPB et l'Université de Gent couvrait la coopération de la recherche et du développement de la science. Dans son discours, le recteur d'IPB, Heri Soehardianto, a affirmé que IPB a engagé à devenir le principal établissement d'enseignement dans le renforcement de la souveraineté de la nation, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la marine et de la bioscience.
Our university is committed to achieve the vision to become a leading institution in strengthening national dignity through globally.
Nos universités sont engagées à réaliser la vision de devenir un leader d'institution dans le renforcement de la souveraineté de la nation à travers l'enseignement supérieur excellent au niveau mondial dans les domaines de l'agriculture, la marine et les biosciences. L'université est connue comme l'une des universités qui contribue à la création d'innovation. Notre université continue de renforcer la coopération internationale avec d'autres institutions dans le monde entier. L'Indonésie est un pays avec des ressources potentielles abondantes qui peuvent être utilisées pour encourager le développement d'une économie verte. Toutefois, selon Heri, l'Indonésie envisage également des défis tels que le réchauffement climatique et la dégradation de l'eau qui entrave les efforts de développement durable. Par conséquent, selon Heri, il faut nécessiter le concept stratégique en matière de la conservation des ressources naturelles qui peut relier les secteurs économiques et sociaux pour atteindre les objectifs de développement durable SDGs. Comme la suppression de la pauvreté et de la préservation de l'environnement. Le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, a invité la France à construire un chantier naval en Indonésie parce que cela est un très bon moment à investir dans le domaine maritime. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'industrie maritime, le moyen de transport et l'industrie de défense du ministère de l'Industrie, Yann Sibaran, après avoir accompagné le ministre Saleh d'accepter Roland Duassart en tant que le directeur de la sûreté et de la sécurité maritime au CEA à Jakarta. Yann Sibaran a expliqué: le ministre Saleh a affirmé diverses directives qui peuvent soutenir le progrès de l'investissement dans le domaine du chantier naval qui est encouragé par le gouvernement de l'Indonésie. Il a dit que la France considérerait cette offre en voyant la situation et la condition existante. WWF d'Indonésie espère cette entreprise de plantation dans la région de Kubu Raya pour coopérer avec WWW dans la gestion des forêts de mangroves durables. Cela a été dit par le coordinateur du programme WWF Indonésie, Kalimantan Barat, Albert Chiu, à Sungai Raya, mercredi. Deux trois entreprises qui ont coopéré avec WWW sont orientées à utiliser les forêts de mangroves durables, car quand on parlait de la production, ont certainement à réfléchir à la façon dont le processus de développement durable. Son indicateur, selon Albertus, est deux espèces importantes dans les zones de mangroves doivent être une préoccupation commune, à savoir le dauphin et le nasique. Ces deux espèces seront l'indicateur qui donnera des informations si la société gère sa production durablement et écologique ou non. Le vice-régent de Kubu Raya, Hermanus, a dit qu'il soutenait pleinement les efforts du WWF de coopérer avec les entreprises dans cette région dans la préservation de l'environnement. Le maire de la ville de Tomohon, Sulawesi du Nord, Jimmy F. Eman, a dit que le Festival mondial des fleurs de Tomohon, qui aura lieu en août 2016, peut contribuer à augmenter l'économie de cette région. Le maire de la ville de Tomohon, Jimmy F. Eman, cité par Antara, a déclaré jeudi que ce festival serait le programme annuel. L'année dernière, la ville de Tomohon était succès à organiser cet événement. Cette année, le Festival mondial des fleurs impliquera des provinces de l'Indonésie et les participants des pays étrangers. Le festival en 2015 a été participé par quelques pays étrangers tels que la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Inde, la Pologne, les Philippines et la France, y compris le secteur privé, les entreprises publiques et des autres participants locaux. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondo Kambe, soutient les activités du Festival mondial des fleurs de Tomohon. Le gouvernement provincial va allouer le fonds pour soutenir cet événement. Dondo Kambe souhaite que les variétés de fleurs comme l'un des produits importants de Tomohon puissent être vendues à l'étranger. Le gouvernement de la région de Kulon Progo, Yogyakarta, enverra la coopérative Serba Usaha Jati Rogo et Menore Polutan de participer à l'exposition de l'industrie à Hong Kong du 21 au 27 mars. Le haut fonctionnaire du Bureau de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des ressources minérales de Kulon Progo, Niken Prabo Laras, a déclaré mercredi à Kulon Progo que le but de la visite à Hong Kong pour que les entrepreneurs de sucre à Kulon Progo puissent devenir un propre exportateur. Selon Niken Prabo Laras, jusqu'à présent, les exportations de sucre vers de nombreux pays utilisent encore une tierce partie. La communauté de Lawe continue de faire campagne l'artisanat de tisanes au monde comme l'une des sagesses locales possédées par l'Indonésie. Cette communauté préoccupe la préservation du tissage et de l'étoffe qui est presque disparue en Indonésie. L'objectif principal de la communauté, qui a été fondée en 2004 et basée à Yogyakarta, est d'autonomiser les artisans, en particulier les femmes, dans le traitement de tissus traditionnels, d'être un produit qui a plus de valeur économique. En outre, cette communauté fournit la formation pour les artisans dans le traitement des matériaux traditionnels de l'Indonésie en un produit fonctionnel. Le représentant de l'association de Lawe en India, comme cité par Antara, a affirmé que la communauté de Lawe fournit également un lieu pour les artisans de vendre leurs produits et le résultat de la vente de ces produits sera retourné à cet artisan. En India a ajouté qu'actuellement, les membres de la communauté de Lawe étaient dispersés dans différentes régions de l'Indonésie, entre autres le nord de Sumatra, ouest de Sumatra, Riau, Palembang, Lampung et Pontianak. Serge Ditor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers fidèles auditeurs, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « La polémique du transport sur la base en ligne ». Récemment, les chauffeurs de taxi, d'autobus, de transport en commun et ceux de bajaj ont manifesté pour refuser un transport basé en ligne tel que Uber et Grab Taxi. En outre, il refuse l'existence de ce mode de transport moderne car il a fait mal leur gain. En effet, les services de transport basés sur les applications ou en ligne sont devenus une partie de vie des gens en Indonésie. Pour les résidents dans les grandes villes comme Jakarta, on sentit l'avantage dans l'utilisation des services de transport en ligne, entre autres, la facilité pour les consommateurs pour commander le service. En même temps, avec tant de gens qui possèdent un smartphone et une bonne connexion d'Internet, on peut utiliser facilement ces services avec simple toucher du doigt. L'autre avantage est le prix relativement moins cher que le transport en commun conventionnel. Chaque entreprise de transport en ligne a fixé le tarif basé sur le compte du prix par kilomètre. Mais généralement, les entreprises fournissent également le prix promotionnel, si bien qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces promos. Séparer les avantages sentis par le consommateur de transport en ligne, la même chose ne peut pas être sentie par les hommes d'affaires chargés de transport conventionnel. L'Organisation de transport terrestre, Organda de Jakarta, se plaint l'existence de transport en ligne qui est considéré de violer toutes les règles et la concurrence déloyale. Selon le président d'Organda de Jakarta, Syafruhan Sinungan, le transport en ligne ne paie pas d'impôts et ne pas avoir une licence d'exploitation. La polémique des transports en ligne ne devrait pas continuer à se produire si le gouvernement est sérieux de résoudre ce problème. Depuis longtemps, un certain nombre de partis a exhorté le gouvernement à élaborer des règlements spéciaux régissant les services de transport en ligne. La demande du ministre des Transports au ministre de la Communication et de l'Information de bloquer l'application de la réservation de transport en ligne va certainement déclencher une nouvelle controverse dans la communauté. Ce n'est pas la bonne solution parce que même si le transport en ligne est considéré comme illégal, qui est suivi des principes juridiques, l'existence de transport en ligne est nécessitée par les gens. Compte tenu, le système de transport de l'Indonésie n'est pas encore optimal en Indonésie. C'est le temps pour le gouvernement d'améliorer sérieusement le cadre juridique afin de faciliter le transport en ligne. Le gouvernement devrait réglementer et ne pas bloquer ou l'interdire. Il faut faire le cadre réglementaire qui peut lier les entreprises de transport en ligne, des fournisseurs de transport, l'utilisation des applications et des consommateurs. Avec des règles claires, la polémique sur l'existence de ce transport en ligne pourrait être surmontée. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer maintenant le 16 mars 1926. Premier fossé à carburant liquide. Le physicien américain Robert Hutching Goddard réalise à Auburn dans la Massachusetts le lancement d'une fusée propulsée par un mélange d'essence et d'oxygène liquide. L'engin atteint une altitude de 12,5 mètres et une vitesse de 100 km par heure. Ce premier essai encouragera Goddard à perfectionner son système de propulsion. Il dépassera 214 brevets d'invention qui joueront une importance capitale dans la conquête spatiale. En chance, le 16 mars 1935, Hitler rétablit le service militaire et réarmement de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Le chancelier allemand Adolf Hitler annonce le rétablissement du service militaire obligatoire en Allemagne. Dans le même temps, il a décidé que les effectifs de l'armée seront portés de 100 000 à 500 000 hommes. La France, l'Angleterre et les États-Unis, vainqueurs de la Première Guerre mondiale, assistent en puisant à la première violation du traité de Versailles. Hitler ne casse plus son désir de former une armée offensive et puissante. Contenant les dispositions du traité de Versailles, le chancelier allemand Adolf Hitler a permis le réarmement du Troisième Reich en rétablissant le service militaire obligatoire le 16 mars 1935. Quelques mois plus tard, la marine et l'armée de l'air se remirent en place sans aucun pays ne réagisse. La Wehrmacht remplace alors le Reich Wehr, nom qui était donné à l'armée allemande par le traité de Versailles. Entamé le 16 mars 1988, bombardement de Halabja. La ville courte d'Halabja est bombardée avec les armes chimiques utilisées contre l'Iran. Ainsi, pour la première fois, un État utilise ses agents chimiques contre sa propre population. Le bilan est catastrophique, on compte 5000 morts, femmes, hommes et enfants. Les images font le tour du monde. Un tel massacre intervient dans le cadre de la répression contre les Kurdes qui ont profité de la guerre Iran-Irak pour reprendre la lutte contre Saddam Hussein et pour leur autodétermination. En effet, quelques jours auparavant, la ville d'Halabja avait été prise par les Peshmerga ou Maquisards de l'Union patriotique de Kurdistan auxquels s'étaient ralliés les gardiens de la révolution iranienne. Ces auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Anoni, ici ce soir, l'édition de 16 mars. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La mode indonésienne doit profiter de la communauté économique de l'ASEAN ». Depuis janvier 2016, la communauté économique de l'ASEAN est appliquée. Les entreprises doivent être en mesure de rivaliser avec les entrepreneurs de l'Asie du Sud-Est, y compris l'industrie de la mode. L'exposition des prêt-à-porter d'Indonésie Fashion Week qui a eu lieu à Jakarta la semaine dernière est l'un des efforts visant à renforcer la mode indonésienne face à la communauté économique de l'ASEAN. Environ 35 designées indonésiennes ont participé à l'exposition. Lors de l'ouverture du Fashion Week Indonesia 2016, la ministre de Coordination des Ressources Humaines, Madame Puan Maharani, a appelé les entreprises dans le domaine de la mode d'utiliser les produits indonésiens. Le gouvernement s'engage à aider la mode indonésienne face à la communauté économique d'ASEAN ayant de la capitalisation et la promotion. Le gouvernement a également créé l'Agence économique créative qui donnera des facilités aux jeunes à développer leurs œuvres. Le gouvernement donne également le crédit d'affaires d'un montant de 122 trillions rupiah. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, M. Monsieur Anwar Agung de Ngurah Puspayoga en tant que conférencier à Indonesia Fashion Week 2016 a déclaré que le designer devait être en mesure de répondre à 40% du marché de la mode en Asie du Sud-Est. Ainsi, l'Indonésie n'est plus le marché de l'industrie de la mode en Asie du Sud-Est. Ne laissez pas la mode de l'intérieur domine le marché intérieur. Le ministre Puspayoga souhaite que l'Indonésie puisse devenir le centre de la mode internationale. Pour qu'on puisse être très compétitif, les œuvres de mode doivent être créatives, notamment en utilisant la valeur de la culture locale de l'Indonésie, de Sabang jusqu'à Merauke. L'expression culturelle devient un défi pour les designers. Il faut dominer le marché indonésien pour dominer le marché du Sud-Est asiatique. Cependant, le ministre de l'Industrie, M. Saleh Hussein, a déclaré que le ministère de l'Industrie encourageait également la croissance de l'industrie de la mode nationale, comme par exemple en donnant la normalisation dans cette industrie. L'industrie de la mode contribue aux exportations d'une valeur de 81 trillions de rupiah chaque année et absorbe des emplois jusqu'à 3,8 millions de personnes par an. C'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Université de l'agriculture de Bogor, IPB, a signé un mémorandum d'entente avec l'Université Gent de la Belgique, mercredi à Bogor, Java West. Cette signature a été témoignée par la princesse Astrid de la Belgique en marge de la visite de la mission économique de ce pays en Indonésie du 12 au 19 mars. Le mémorandum d'entente entre IPB et l'Université de Gent couvrait la coopération de la recherche et du développement de la science. Dans son discours, le recteur d'IPB, Heri Soehardianto, a affirmé que IPB a engagé à devenir le principal établissement d'enseignement dans le renforcement de la souveraineté de la nation, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la marine et de la bioscience.
Our university is committed to achieve the vision to become a leading institution in strengthening nation dignity through globally.
Nos universités sont engagées à réaliser la vision de devenir un leader d'institution dans le renforcement de la souveraineté de la nation à travers l'enseignement supérieur excellent au niveau mondial dans les domaines de l'agriculture, la marine et les biosciences. L'université est connue comme l'une des universités qui contribue à la création d'innovation. Notre université continue de renforcer la coopération internationale avec d'autres institutions dans le monde entier. L'Indonésie est un pays avec des ressources potentielles abondantes qui peuvent être utilisées pour encourager le développement d'une économie verte. Toutefois, selon Heri, l'Indonésie envisage également des défis tels que le réchauffement climatique et la dégradation de l'eau qui entrave les efforts de développement durable. Par conséquent, selon Heri, il faut nécessiter le concept stratégique en matière de la conservation des ressources naturelles qui peut relier les secteurs économiques et sociaux pour atteindre les objectifs de développement durable SDGs. Comme la suppression de la pauvreté et de la préservation de l'environnement. Le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Hussein, a invité la France à construire un chantier naval en Indonésie parce que cela est un très bon moment à investir dans le domaine maritime. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'industrie maritime, le moyen de transport et l'industrie de défense du ministère de l'Industrie, Yan Sibarang, après avoir accompagné le ministre Saleh d'accepter Roland Juassart en tant que le directeur de la sûreté et de la sécurité maritime au CEA à Jakarta. Yan Sibarang a expliqué: le ministre Saleh a affirmé diverses directives qui peuvent soutenir le progrès de l'investissement dans le domaine du chantier naval qui est encouragé par le gouvernement de l'Indonésie. Il a dit que la France considérerait cette offre en voyant la situation et la condition existante. WWF d'Indonésie espère cette entreprise de plantation dans la région de Kuburaya peut coopérer avec WWW dans la gestion des forêts de mangrove durables. Cela a été dit par le coordinateur du programme WWF Indonésie, Kalimantan Barat, Albert Chiu, à Sungai Raya, mercredi. Deux trois entreprises qui ont coopéré avec WWW sont orientées à utiliser les forêts de mangrove durables, car quand on parlait de la production, on certainement à réfléchir à la façon dont le processus de développement durable. Son indicateur, selon Albertus, est deux espèces importantes dans les zones de mangrove doivent être une préoccupation commune, à savoir le dauphin et le nasik. Ces deux espèces seront l'indicateur qui donnera des informations si la société gère sa production durablement et écologique ou non. Le vice-régent de Kuburaya, Hermanus, a dit qu'il soutenait pleinement les efforts du WWF de coopérer avec les entreprises dans cette région dans la préservation de l'environnement. Le maire de la ville de Tomohon, Sulawesi du Nord, Jimmy F. Eman, a dit que le Festival mondial des fleurs de Tomohon, qui aura lieu en août 2016, peut contribuer à augmenter l'économie de cette région. Le maire de la ville de Tomohon, Jimmy F. Eman, cité par Antara, a déclaré jeudi que ce festival serait le programme annuel. L'année dernière, la ville de Tomohon était succès à organiser cet événement. Cette année, le Festival mondial des fleurs impliquera des provinces de l'Indonésie et les participants des pays étrangers. Le festival en 2015 a été participé par quelques pays étrangers tels que la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Inde, la Pologne, les Philippines et la France, y compris le secteur privé, les entreprises publiques et des autres participants locaux. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondo Kambe, soutient les activités du Festival mondial des fleurs de Tomohon. Le gouvernement provincial va allouer le fonds pour soutenir cet événement. Dondo Kambe souhaite que les variétés de fleurs comme l'un des produits importants de Tomohon puissent être vendues à l'étranger. Le gouvernement de la région de Kulon Progo, Yogyakarta, enverra la coopérative Serba Usaha Jati Rogo et Menore Polutan de participer à l'exposition de l'industrie à Hong Kong du 21 au 27 mars. Le haut fonctionnaire du Bureau de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des ressources minérales de Kulon Progo, Niken Probo Laras, a déclaré mercredi à Kulon Progo que le but de la visite à Hong Kong pour que les entrepreneurs de sucre à Kulon Progo puissent devenir un propre exportateur. Selon Niken Probo Laras, jusqu'à présent, les exportations de sucre vers de nombreux pays utilisent encore une tierce partie. La communauté de Lawe continue de faire campagne l'artisanat de tisanes au monde comme l'une des sagesses locales possédées par l'Indonésie. Cette communauté préoccupe la préservation du tissage et de l'étoffe qui est presque disparue en Indonésie. L'objectif principal de la communauté, qui a été fondée en 2004 et basée à Yogyakarta, est d'autonomiser les artisans, en particulier les femmes, dans le traitement de tissus traditionnels, d'être un produit qui a plus de valeur économique. En outre, cette communauté fournit la formation pour les artisans dans le traitement des matériaux traditionnels de l'Indonésie en un produit fonctionnel. Le représentant de l'association de Lawe en India, comme cité par Antara, a affirmé que la communauté de Lawe fournit également un lieu pour les artisans de vendre leurs produits et le résultat de la vente de ces produits sera retourné à cet artisan. En India a ajouté qu'actuellement, les membres de la communauté de Lawe étaient dispersés dans différentes régions de l'Indonésie, entre autres le nord de Sumatra, ouest de Sumatra, Riau, Palembang, Lampung et Pontianak. Serge Ditor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La maison traditionnelle Panggung de la province de Bangka Belitung. Belitung, l'île sur la côte est de Sumatra, flanquée par le détroit de Gaspar et le détroit de Karimata, possède de belles plages et de paysages magnifiques. Les plages sont tout à fait uniques, car elles sont décorées par les roches granitiques. Beaucoup de touristes locaux et étrangers voyagent à Belitung. Pour y aller, on peut prendre l'avion à l'aéroport Hanan-Judin à Tanjung Pandang, la capitale de la régence Belitung. Belitung est aussi connu pour la maison traditionnelle Panggung, située dans le centre de Tanjung Pandan, précisément sur Jalan Ahmad Yani, juste à côté du bureau de Région Belitung, environ 20 minutes de l'aéroport Hanan Judin. Cette maison a été construite en 2006, 3 ans plus tard a été inaugurée. Elle est une maison miniature Panggung pour un noble ou des autres fonctionnaires. La différence de maison traditionnelle appartenait à des gens ordinaires et le montant de la chambre. Le nombre de salles dans la maison traditionnelle Panggung pour les nobles est plus que celui de la maison pour les habitants locaux. La maison traditionnelle Panggung dans le centre-ville de Tanjung Pandan possède 5 salles avec des fonctions différentes. Pour entrer dans cette maison Panggung, il faut monter les escaliers nombre impair. Pour les nobles, plus de 3 marches, mais pour les gens ordinaires, ne sont autorisés qu'avoir 3 marches. Sur la terrasse de 3 x 7 mètres carrés, seulement les invités masculins qui peuvent être y acceptés, tandis que les femmes vont directement au milieu de la maison ou à la cuisine. La deuxième salle est la pièce principale où la famille fait des activités. Ici, vous pouvez voir les chambres sans les cloisons qui sont également la caractéristique de la maison Panggung de Belitung. Les parents et les enfants dorment ensemble dans la chambre à l'aide d'un mince matelas ou un tapis. Dans cette salle, on organise la fête de mariage. Il y a aussi le pont de 3 mètres de long nommé Los. Ici, tous les membres de la famille se sont réunis pour se détendre en discutant. La salle la plus en arrière est pour la bonne. La maison des habitants ordinaires n'a pas de salle pour la bonne. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « La maison traditionnelle de Panggung de la province de Bangka Belitung ». Merci à tous et à bientôt.
les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, voici le magasin de warna-warni ou la couleur indonésienne. Dans cette édition de jeudi, nous vous invitons à connaître les poissons de Pekalongan qui se trouvent au monde. Chers auditeurs, pour les humains, le poisson est la source de protéines et la bonne vitamine. Ceci est ce qui provoque ou encourage les humains en masse à la recherche de poissons pour la consommation. Pekalongan ou la ville de Pekalongan est située dans les régions côtières où la majorité des communautés sont pêcheurs. Pekalongan se trouve au nord de l'île de Java. L'abondance de capture de poissons fait l'administration de la ville de penser à exporter. Cependant, le patron de port de Pekalongan, Mansour, a déclaré que la demande de l'étranger sur les produits de la pêche peut être remplie grâce à la grande capture. Mansour a aussi dit au cours de 2015, la valeur d'exportation de poissons a atteint 4 millions d'Américains, plus grand que l'année dernière ou élevé à 3 millions de dollars américains. Chers amis, le résultat de pêche à Pekalongan en province de Java Central a été déjà exporté vers plusieurs pays de l'Asie et de l'Europe, tels que la Corée du Sud, la Chine et du Canada. À présent, le secteur de pêche marine à Pekalongan a montré la tendance positive. Du coup, la communauté de Pekalongan espère que la demande des marchés étrangers aux fruits de mer sous forme de poissons, crabes en conserve, augmente de plus en plus. Actuellement, la valeur des exportations de poissons augmente dans toute l'Indonésie, ainsi que Pekalongan. Elle devient l'un des excellents produits pour l'industrie d'exportation de poissons. Cependant, la capture de poissons près des eaux territoriales de Pekalongan ne sont pas spéciaux, mais la capture de poissons de pêcheurs de Pekalongan en tous ou en généralement a fait cette région en tant que premier exportateur de poissons en Indonésie. Face à de cela, le Bureau de l'industrie du commerce des coopératives de PME de Pekalongan a noté le chiffre d'exportation de produits de la pêche en janvier-septembre 2011 a augmenté de 40,42% par rapport au même mois 2011. Le besoin de la demande de poissons a rencontré deux grandes entreprises à Pekalongan habillées beaucoup de main-d'œuvre. Heureusement, avec la demande croissante pour les produits de la mer de capture, il y aura plus d'emplois à réduire le chômage. En effet, le domino incroyable causé par le prix des poissons est abondant. Chers auditeurs de la voix de l'Indonésie, c'était des informations sur la ville de Pekalongan, telles que le poisson qui devient le marché global. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir, à la semaine prochaine.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons en rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs. Voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition ce soir, nous vous présentons un chanteur pop qui s'appelle Cakrakan. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Cakrakan intitulée « Devez se parer ». Bonne écoute.
Thank you.
Cinquième lointaine, c'était la première chanson de Chakra Khan intitulée « Devait se parer ». Chakra Konta Penyaman, ou mieux connu sous le nom Chakra Khan, est né à Pangandaran, Indonésie, le 27 février 1992, est un chanteur indonésien. Il a commencé sa carrière dans le monde de la musique en 2012. Il a commencé à célébrer après avoir publié sa principale chanson intitulée « Harus terpisah ou devait se parer ». Avec la musique et des paroles qui sont faciles à écouter, cette chanson était populaire parmi les gens et devient le hit dans un temps relativement court. En plus des paroles et la musique qui sont faciles à écouter, le premier single de Chakra Khan est célébré dans l'industrie de la musique grâce à sa voix lourde et la vocale unique. Bon, serviteur, écoutons donc la deuxième suivante de Chakra Khan intitulée Tout l'amour, featuring avec Siti Nurhaliza. Bonne écoute.
Tetap kepergian dia. tetap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku
yang selalu menghidupkan segala gerakku.
Kau selalu memujamu
hingga nanti kita kan bersama.
Je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur, Chakra Khan. Chakra Khan a publié le single intitulé Tout l'amour en 2014. Le fait de chanter ensemble avec une chanteuse célèbre de la Malaisie, Siti Nurhaliza, a été approuvé par Chakra. Siti Nurhaliza, une diva malaise, s'est intéressée à l'unicité et la force vocale de Chakra Khan. La collaboration de la voix distinctive de Chakra Khan avec la voix douce de Siti Nurhaliza est très apte à être appréciée. Pendant sa carrière dans le monde de divertissement, Chakra a remporté divers prix comme le meilleur nouvel arrivant à Anugerah Musique Indonesia 2013, la meilleure voix du nouveau chanteur de Anugerah Planète Musique en 2013. En outre, après avoir terminé le programme de premier cycle à l'École supérieure de musique de Bandung en 2014, Chakra a obtenu une bourse pour poursuivre le maître à l'Allemagne dans la section de la musique, mais il l'a refusé parce qu'il voulait se concentrer sur une carrière. Il espère qu'un jour, il peut être en mesure de poursuivre leurs études. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Tchakrakan intitulées « Après ta mort » et « Se souvenir de lui ». Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ini kau harus ku lepas ku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Sejalan dengan yang kau inginkan dan yang ku mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku akan pernah habis meski tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.